Frères et sœurs, les amis, ce 32e dimanche d'ordinaire nous donne une palette, si je puis dire, de lectures, soit un petit peu étranges, comme l'Évangile, ou quelque peu macabre. Là aussi, si on peut s'exprimer de cette manière-là, quant à la première lecture, tiré de l'Ancien Testament, du second livre des martyrs d'Israël ou du livre des Maccabées. Alors néanmoins, d'abord nous accueillons la parole de Dieu telle qu'elle nous est donnée et non pas telle qu'on aimerait la recevoir. Néanmoins, l'ensemble de ces lectures font passer une étape capitale dans le développement de la foi juive, et nous allons voir rapidement comment. Alors le contexte, comme chaque fois, nous sommes vers 165 avant Jésus-Christ, à un moment de terrible persécution, nous l'avons déjà dit, déclenchée par le roi Antiochus Épiphane, et comme chaque période de persécution, pour obliger les Juifs à renier leur foi, le tyran exige des tas de gestes de désobéissance, sans parler de torture, bien évidemment, de désobéissance à la loi de Moïse, de cesser toute pratique, etc. Bon. Voilà le contexte, même si on pourrait le développer davantage, mais face, comme chaque fois du reste, à cette période terrible de persécution, nous allons regarder comment le peuple juif va résister. Il va résister par une valeur fondamentale qui est celle de la fidélité. Et c'est du reste la fidélité, comme chaque fois, c'est encore bon aujourd'hui, conduit de nombreux chrétiens, comme de nombreux juifs à l'époque du livre des martyrs d'Israël, à confesser la foi et être martyr, c'est-à-dire plutôt mourir que de désobéir à la loi de Dieu. Mais comme toujours, cela peut paraître un paradoxe, c'est au sein même de cette persécution qu'est née la foi en la résurrection. C'est là le point fondamental, spirituel et théologique de l'ensemble de ces trois lectures de ce dimanche. Dans ce second livre des martyrs d'Israël, nous lisons un passage de l'histoire de sept martyrs, de sept frères qui ont été torturés et assassinés par ce tyran que fut Antiochus Épiphane. Et c'est cette découverte de la foi en la résurrection qui les a soutenus. Puisque nous mourrons par fidélité à ses lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie nouvelle. On a là une des toutes premières affirmations très claires de la résurrection. Et c'est pas évident à l'époque. Et j'allais dire une résurrection très charnelle, puisque l'un des frères parle de retrouver ses membres. C'est du ciel que je tiens ses membres, mais à cause de sa loi, je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. C'est très beau, surtout en se plaçant à l'époque. Cette affirmation de cette foi dans la Bible est tout à fait première. Jusque-là, on avait une notion plutôt d'alliance de Dieu avec son peuple, mais on parlait aussi très peu de ce qui se passait après la mort. Cette alliance, on s'y est intéressé comme étant une réalisation ou une réalité de l'aujourd'hui du peuple et non du lendemain de l'individu. Mais la progression qui se fait de la foi du peuple juif, c'est de prendre conscience que Dieu est le Dieu de la vie. Et on commence à espérer qu'un jour, l'humanité sera délivrée de la mort. Nous retrouvons cela aussi chez le prophète Isaïe, mais aussi chez le grand prophète Ézéchiel. Nous connaissons cet épisode, nous l'avons lu il n'y a pas si longtemps, du relèvement du peuple juif chez le prophète Ézéchiel dans ce très beau passage des ossements desséchés qui vont retrouver vie et marquer ainsi, au travers de cette vision d'Ézéchiel, appelée la vision des ossements desséchés, qu'il ne s'agit pas d'abord avant tout de résurrection individuelle, mais l'Esprit Saint annonçait beaucoup plus que Ézéchiel n'en avait lui-même conscience. C'est ça qui me semble très important, c'est nous voyons le travail chez les prophètes et dans leur cœur et dans leur esprit de l'Esprit Saint. Pour en revenir à notre texte des martyrs d'Israël, on a là, dans cet épisode qui nous est donné de lire en ce dimanche, une étape beaucoup plus forte et beaucoup plus avancée de cette foi d'Israël en la résurrection des corps. Même si nous savons que cette idée de résurrection des corps n'a été possible qu'après une longue expérience de la fidélité de Dieu. Elle est devenue au fur et à mesure une sorte d'évidence que le Dieu fidèle, celui qui ne nous a jamais abandonnés, ne peut pas nous abandonner à la mort. Et j'aimerais, en conclusion, rappeler l'importance de la fidélité. Il y a là comme une sorte d'évidence. Si Dieu est fidèle, si Dieu est le Dieu de la vie, puisqu'il nous a donné l'être et l'existence, il ne peut pas tout d'un coup couper cette fidélité et faire en sorte de nous abandonner à la mort. Et donc nous comprenons aussi par là, peut-être, que la vision chrétienne d'aujourd'hui sur la mort n'est pas une destruction, mais simplement un parachèvement et un accomplissement de l'essentiel de notre vie, de notre existence, qui est cette âme immortelle que Dieu a placée de toute éternité en nous, et que tout au long de mon existence sur la terre, c'est cette fidélité, pas toujours facile, je le concède, à vivre et à mettre en exercice dans notre vie, mais cette fidélité, où une fois de plus nous revenons au baptême, puisque les promesses du baptême, cette fidélité à Dieu qui, par le baptême, vient pour l'éternité de me greffer sur la personne de son Fils, comment pourrait-il nous abandonner au moment le plus important, ou un des moments les plus importants de notre existence, qui est le passage de la vie à la vie éternelle? Autrement dit, la fidélité dans cette première lecture des martyrs d'Israël, cette fidélité de ses frères contre vents et marées face à la persécution, de cette fidélité dans le contexte de la foi d'Israël, eh bien c'est de cette fidélité qu'est née, si je puis dire, la notion de résurrection qui va mettre un temps infini à se développer, mais auquel nous devons beaucoup. Alors, au travers de cette première communion et de ce baptême à nouveau au cœur de notre Eucharistie à Venelle, bien nous mettons en acte tout simplement les arts de la résurrection en chacun des cœurs. Amen.